Voici le journal de Thomas Cluzel.
Le gouvernement populiste italien n'entend pas vouloir dévier d'un iota de la ligne dure qu'il s'est fixée sur la question migratoire, et ce malgré les nombreuses voix qui s'élèvent pour dénoncer les conditions de vie des migrants bloqués à bord du Diciotti. Rome avait mis en demeure la Commission européenne de trouver un accord d'ici ce soir, en vain. Nous serons en ligne dès le début de ce journal avec Olivier Tosseri à Rome. La question migratoire, il en sera également question ce soir en Allemagne avec les penchants à l'extrême droite de l'égérie de la gauche radicale. Explication à venir de notre correspondante Nathalie Vercieux. Depuis hier, lors de la rentrée à sonner pour les partis de l'opposition en France, aujourd'hui c'était au tour de Valérie Pécresse d'allumer pour les Républicains le compte à rebours pour la présidentielle de 2022, et ce 48 heures avant que le responsable du parti, Laurent Wauquiez, ne fasse lui-même sa rentrée. Ambiance, nous écouterons le reportage d'Élodie Forêt. Enfin, le gouvernement socialiste espagnol a approuvé aujourd'hui l'exhumation du corps de Franco de son mausolée avec Pierre Chaperon à Madrid. Nous verrons combien l'histoire de la dictature franquiste continue encore aujourd'hui à diviser la population. Une semaine après leur sauvetage, le sort des migrants bloqués à bord du Diciotti reste donc toujours incertain ce soir. La Commission européenne a pourtant été mise en demeure par l'Italie de trouver un accord sur la répartition des migrants. À défaut, Rome menace même à présent de suspendre sa contribution au budget de l'UE à compter de l'année prochaine. Alors, on connaissait déjà le cynisme avec lequel le tonitruant ministre d'extrême droite, Matteo Salvini, se sert de cette crise migratoire pour mettre l'Europe au pied du mur. Sauf que cette fois-ci, l'avertissement est venu de son allié du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, manière probablement de clarifier la ligne de son parti face à son allié de la Ligue d'extrême droite qui commençait à lui faire un peu trop d'ombre. Olivier Tosseri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Rome. Alors l'Italie a beau hausser le ton, la réunion organisée à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de débloquer la crise s'est achevée sans résultat, ce qui pourrait presque apparaître comme une bonne nouvelle aux yeux de Rome. Pourquoi ? Parce que cet imbroglio autour du Diciotti ne sert au fond qu'un seul objectif, s'attaquer aux instances européennes.
Exactement, les rotomandats de Luigi Di Maio et Matteo Salvini visent à entretenir l'euroscepticisme grandissant de l'opinion publique italienne. L'Europe, c'est le bouc émissaire idéal qui est désigné, pointé du doigt à la moindre difficulté ou aux crises à laquelle le gouvernement est confronté. Souvenez-vous, lors de l'effondrement du pont Morandi à Gênes, le 14 août dernier, la faute était celle de l'Europe, celle des contraintes de Bruxelles. C'est ce qu'avait dit immédiatement Matteo Salvini. Bruxelles qui sera de nouveau pointé du doigt cet automne lorsqu'il faudra ficeler le budget, un budget qui devra faire les comptes avec des promesses électoralistes irréalisables, et Bruxelles sera une nouvelle fois un alibi idéal pour les renier.
Et puis Olivier, s'agissant cette fois-ci de ces 155 migrants toujours bloqués à bord du navire, il semblerait que leur situation soit chaque jour un peu plus dramatique. Aujourd'hui, une partie d'entre eux a entamé une grève de la faim.
Oui, une grève qui a été suspendue, qui a duré quelques heures, mais qui a provoqué l'ironie de Matteo Salvini. En Italie, a-t-il dit, 5 millions de personnes vivent dans des conditions de pauvreté absolue, et eux aussi font la grève de la faim tous les jours. Les conditions à bord du navire Diciotti ne cessent de se dégrader. La situation sanitaire empire après 8 jours de confinement. Les cas de gale se multiplient alors que les vêtements et les couvertures ne peuvent être lavés. La tension est de plus en plus vive auprès des 150 migrants qui attendent d'être fixés sur leur sort et qui redoutent d'être envoyés en Libye où certains ont été torturés. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exhorte le gouvernement italien à faire débarquer tous les migrants. Il se heurte pour l'instant toujours à son intransigeance.
Merci Olivier Tosseri en direct de Rome. Alors cette affaire du Diciotti s'inscrit évidemment dans un contexte de forte droitisation de la vie politique, et pas seulement en Italie mais dans de nombreux autres États européens où les partis de gauche ne cessent de perdre des voix, au point qu'en Allemagne, une partie de la gauche radicale entend désormais se droitiser. C'est le cas notamment de la coprésidente du groupe parlementaire Die Linke, Sarah Wagenknecht, lancera dans moins de 2 semaines son propre parti pour en finir, je cite, avec la bonne conscience de gauche sur la culture d'accueil. Nathalie Vercieux nous appelle de Berlin.
Quand ils sont arrivés à Munich à l'été 2015, les réfugiés syriens en provenance de Hongrie ont été accueillis, un peu interloqués, à bras ouverts. 3 ans plus tard, le parti d'extrême droite AfD caracole à 15% d'intention de vote dans les sondages et les néo-communistes stagnent, eux, à 10% des intentions de vote. Pour Sarah Wagenknecht, la très charismatique co-chef du parti Die Linke, la chose est entendue, les migrants sont en concurrence avec les Allemands peu qualifiés sur le marché du travail. Et il faut lever le tabou qui entoure à gauche les questions migratoires et le mirage des frontières ouvertes. Qu'on le dise, Hofstede n'a pas vocation à devenir un parti dans le parti, mais bien plutôt de drainer à nouveau vers la gauche les déçus du Parti Vert, du SPD ou même de l'extrême droite et le petit peuple inquiet de la concurrence que représentent les migrants sur le marché du travail et du logement bon marché. Officiellement, le mouvement qui sera lancé le 4 septembre compterait déjà 60 000 inscrits. Il s'inspire de la dynamique de Podemos ou des Insoumis.
La question migratoire, décidément au cœur cette fois-ci du discours de lancement de campagne de Yannick Jadot, le tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, s'exprimait aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion des universités d'été de son parti. Vous allez l'entendre, tout le monde en prend pour son grade, du Rassemblement National, ex-FN, aux Républicains, en passant par le ministre de l'Intérieur.
Nous avons un devoir de vérité, une exigence de solidarité et une obligation de responsabilité. Non Marine Le Pen, non Laurent Wauquiez, non Gérard Collomb, il n'y a pas de submersion migratoire. L'Europe n'accueille qu'une part infime de ceux qui sont contraints de se déplacer pour survivre. Cassons le règlement de Dublin, nous savons que nous devons le casser et partageons l'accueil des réfugiés. Travaillons avec eux à choisir le pays qui leur permettra de s'installer et de vivre dignement. Il faut que nous retrouvions le courage de la solidarité. C'est l'exemple que nous a donné Damien Carême à Grande-Synthe. Damien, sans jamais nier les difficultés, mais toujours avec éthique et responsabilité, a su mettre des visages, des noms, des parcours sur ce mot difficile, désincarné, celui de migrant. Alors Damien, je crois, comme beaucoup d'entre nous, nous serions extrêmement fiers que tu sois aux avant-postes de cette campagne européenne.
Yannick Jadot, donc tête de liste Europe Écologie Les Verts, qui s'exprimait à l'occasion des universités d'été de son parti. Puis toujours s'agissant de la rentrée des différentes formations politiques à gauche, on précisera qu'après le Parti Socialiste à La Rochelle et la France Insoumise à Marseille, hier c'est au tour du Parti Communiste d'entamer aujourd'hui ses universités d'été à Angers. L'opposition revigorée mais dispersée, à gauche mais aussi à droite. Deux personnalités font leur rentrée médiatique ce week-end. Le patron du parti, Les Républicains, Laurent Wauquiez, ce sera dimanche. Et puis dès aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle réunissait son mouvement à Brive-la-Gaillarde. Querelle d'égo donc en perspective afin de savoir qui à droite incarnera l'opposition à Emmanuel Macron. C'est un reportage à Brive d'Élodie Forêt.
Devant ses partisans sur les terres de Jacques Chirac, Valérie Pécresse donne le « la ». Face à Emmanuel Macron, elle qui fut un temps plutôt bienveillante, veut désormais représenter l'alternative.
On va proposer un projet populaire, alternatif, je dis bien un projet populaire, pas un projet populiste, d'incarner l'opposition crédible à Emmanuel Macron.
Populaire, pas populiste, comme un avertissement discret lancé à Laurent Wauquiez. Invité d'honneur, le maire de Nice, Christian Estrosi, ne manque pas lui non plus d'égratigner le patron du parti malgré sa volonté affichée de rassemblement.
Si certains pensent reconstruire notre mouvement en utilisant les mêmes méthodes, le même type de gouvernance, la même pensée manichéenne, le même sectarisme, la même passion de l'exclusion et la même aversion pour la confrontation d'idées, le même culte du chef, alors je vous le dis, il n'y aura plus ni succès, ni victoire.
Autre soutien de poids, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, ex-LR, a envoyé une vidéo, tout comme Gérard Larcher, le président du Sénat. L'ancien ministre Dominique Bussereau, lui, est là. Il s'adresse à Valérie Pécresse. La France politique a besoin de toi pour ta région, mais aussi d'autres destins. Dans le public, certains s'y voient déjà.
Qu'est-ce que ce serait beau d'avoir une femme présidente de la République en 2022?
On en est déjà là?
J'y pense, sincèrement.
Voilà le reportage à Brive-la-Gaillarde, donc signé Élodie Forêt. Les créations d'entreprises ont reculé de 3,3% en juillet, après avoir déjà baissé de 1,1% en juin. C'est ce qui ressort des dernières statistiques publiées aujourd'hui par l'INSEE. En revanche, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des 12 derniers mois poursuit son accélération, avec une progression de plus de 16%. Le sénateur John McCain, grande figure de la politique américaine, a décidé de mettre fin à son traitement contre son cancer incurable du cerveau après un an de lutte. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui sa famille. Le républicain, âgé de 81 ans, candidat malheureux à la Maison-Blanche en 2008, était soigné depuis un an pour une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie. Sa famille ne dit pas l'état de santé actuel du sénateur, mais un arrêt des traitements signifie que le patient a probablement perdu tout espoir de guérison. On reste aux États-Unis où l'État de Floride vient d'être épinglé dans un rapport de l'organisation Amnesty International publié aujourd'hui et dénonçant, je cite, le caractère arbitraire de la gestion de la peine de mort en Floride. Aujourd'hui, pas moins de 400 condamnés à la peine capitale attendent dans les couloirs de la mort, en particulier des mineurs, mais aussi des handicapés mentaux, comme l'explique Anne Denis d'Amnesty International. Elle répond à Nadine Epstein.
Il y a eu une déclaration de l'association des barreaux américains disant qu'on ne devrait pas condamner à mort des jeunes en dessous de 21 ans parce qu'on sait que la maturité, c'est pas une question de date, hein, c'est pas 18 ans et un jour. Donc c'est ahurissant, hein, c'est le plus horrible de condamner des gens complètement malades mentaux, schizophrènes, paranoïdes et tout ça. Hein. C'est une constante dans l'État de Floride, c'est de ne pas prendre en considération les circonstances atténuantes, si vous voulez. Et le juge, même si maintenant c'est le jury qui décide à l'unanimité, c'est lui qui donne des directives au jury. Et donc, la plupart du temps, les juges ne prennent pas en considération, si vous voulez, une enfance avec des parents drogués, alcooliques, si bien que le gamin, il a passé toute son enfance dans des trucs spécialisés parce qu'il était handicapé mental. Eh bien, ça, on ne prend pas en considération. Et ça continue. La discrimination raciale, elle est complètement présente. Comme toujours, si c'est un noir qui est assassiné, on ne requerra pas forcément la peine de mort. Mais si c'est un blanc qui est assassiné, alors là, si le meurtrier est afro-américain, il est pratiquement sûr d'y passer.
Elle avait été la première femme élue présidente dans son pays, la Corée du Sud, destituée l'an dernier dans un retentissant scandale de corruption et d'abus de pouvoir. Park Geun-hye a été condamné aujourd'hui en appel à 25 ans de prison, une affaire qui aura notamment mis en lumière des accointances troubles entre le pouvoir politique et les grands conglomérats familiaux. Chronique de la corruption ordinaire, toujours et encore en Argentine, cette fois-ci, bien que membre désormais au Sénat et bénéficiant donc d'une immunité parlementaire, Cristina Kirchner a dû se résigner à laisser la police perquisitionner deux de ses résidences. L'ex-présidente de gauche est visée dans 6 dossiers, dont 4 concernant des faits supposés de corruption. L'Australie s'est choisie aujourd'hui un nouveau chef du gouvernement en la personne du ministre des Finances, Scott Morrison. Alors, ça n'est pas franchement une surprise. Ces derniers jours, la position de l'ex-premier ministre, Malcolm Turnbull, considéré comme un modéré, était devenue de plus en plus précaire, notamment en raison d'une fronde menée par l'aile la plus conservatrice de son parti. Et de fait, le nouveau premier ministre est un partisan de la tolérance zéro vis-à-vis des clandestins. C'était une promesse du nouveau Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Le gouvernement a autorisé aujourd'hui l'exhumation de la dépouille du dictateur Franco, enterré en 1975 dans un mausolée à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Madrid. L'endroit devrait être reconverti en lieu de réconciliation nationale. Un acte mémoriel donc, mais aussi politique, car le décret doit encore être approuvé par le Parlement, où le parti socialiste du Premier ministre ne dispose que d'un quart des sièges. Alors il est peu probable qu'il soit rejeté, mais cet épisode ne manquera probablement pas de rappeler les fractures entre la gauche et la droite. C'est une correspondance à Madrid de Pierre Chaperon.
De la conviction et une volonté forte. C'est dans cette position que la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, a présenté le décret d'exhumation de la tombe de Franco.
Nous ne pouvons pas continuer plus longtemps dans la démocratie espagnole sans avoir mis de l'ordre dans nos souvenirs, tout en respectant ceux des victimes. Aucun pays n'a supporté une situation comme la nôtre pendant plus de 40 ans.
Objectif pour le gouvernement, transformer le lieu où repose le dictateur depuis bientôt 43 ans en un endroit de réconciliation. Oui, mais voilà, le projet divise. Il divise dans la société espagnole entre les nostalgiques de l'époque et les victimes en quête de reconnaissance. Une absence de consensus que l'on retrouve également dans les partis politiques. Si le gouvernement devrait recevoir notamment l'appui du parti d'extrême gauche Podemos, elle ne comptera pas sur celui des centristes de Ciudadanos, ni du parti de droite, le Partido Popular. Quoi qu'il en soit, le processus est enclenché. La famille de Franco a 15 jours à partir du 31 août pour indiquer un nouveau lieu pour la sépulture, sans quoi ce sera l'exécutif espagnol qui le fera. Le décret lui sera voté dans un délai d'un mois. L'exhumation aura lieu avant la fin de l'année.
On termine avec un mot de météo du golfe du Lion à la Provence. Le temps demain sera sec et généralement ensoleillé partout ailleurs. Alternance de nuages et de pluies passagères. Les températures, elles seront comprises entre 8 et 25 degrés le matin, 17 à 32 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci à François-Charles Domergue pour la réalisation.